passion. 40 ans de souvenirs. 40 ans de radio. 40 ans, 40 voix.
RTN fête ses 40 ans avec 40 émissions spéciales de 40 minutes. Aujourd'hui, on se penche sur un thème, 40 ans de radio et plus.
Oui Joël, 40 ans de radio et plus, puisque RTN fête aujourd'hui ses 40 ans. C'est en effet le 1er mars 1984 que la radio a commencé à émettre. Et pour parler de cette aventure, notre invité fil rouge avec lequel on va partager 40 minutes de souvenirs, d'anecdotes et de bonne humeur aujourd'hui, c'est le patron de la radio, Pierre Stellet. Bonjour Pierre.
Bonjour.
RTN, 40 ans, 40 voix.
Alors vous l'avez dit, Adrien Pierre Stellet, c'est le patron de RTN, c'est l'administrateur délégué. Mais aujourd'hui, s'il nous a rejoint, c'est aussi pour parler de lui, pour parler de sa passion pour la radio, pour évoquer quelques souvenirs.
Oui, car au-delà de la fonction, il y a un homme qui a consacré sa vie aux médias régionaux et qui aujourd'hui encore, même s'il a franchi l'âge auquel il aurait droit de profiter d'une retraite au soleil, il passe la majorité de ses journées au bureau. Et quand le temps s'y prête, Pierre a une multitude d'autres passions, son verger, la randonnée en montagne, voire même en haute montagne. Alors dans cette émission, on entendra bel et bien le patron, mais on donnera aussi la parole à quatre personnes qui connaissent bien notre invité, histoire d'échanger aujourd'hui, certes avec le patron, mais aussi et peut-être avant tout avec Pierre.
Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. RTN, comme d'autres radios régionales, a 40 ans. Vous imaginiez, il y a 40 ans, que l'aventure allait durer comme ça, qu'elle allait prendre cette envergure ?
Non, complètement inimaginable. Je veux dire, alors, évidemment qu'on était, passionnés, on était une équipe de passionnés, mais il fallait vivre le temps présent, puis il fallait réussir le temps présent, parce que les difficultés étaient innombrables à tout niveau, hein, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au recrutement du personnel, parce qu'on n'avait pas de personnel formé. Donc c'était une sacrée aventure, et donc on pensait surtout comment faire pour que ça marche le lendemain.
Est-ce qu'il y a eu des moments extrêmement difficiles sur ces 40 ans? On a bien compris au début, mais sur ces 40 ans, il y a eu des moments très difficiles.
Oui, il y a eu des moments très difficiles, mais j'ai tendance à vous dire que les mauvais souvenirs, il faut les laisser de côté, quoi. Il faut partir sur les bons souvenirs. Ça serait dommage aujourd'hui de partir sur les mauvais souvenirs.
Alors justement, est-ce qu'il y a eu des moments de bonheur absolu?
Ben oui, certainement qu'il y a eu des moments de bonheur absolu. Je veux dire, d'abord le fait d'obtenir les concessions, ensuite le fait d'avoir eu une modification de la loi qui a quand même pris en compte le besoin des radios régionales. Ça a été un sacré combat parce que je ne me souviens plus, mais j'étais pendant 15 voire 20 ans président des radios régionales romandes pour essayer de faire évoluer les choses, pour avoir des contacts avec l'OFCOM. Ah, même avant que l'OFCOM existe, c'était M. Valpen qui était Odetec, le responsable des radios, donc toute une série de négociations, aussi avec la SSR, parce qu'à l'époque, on reprenait les journaux de la SSR. Il y a parfois eu des moments très tendus, au moment où Riva a décidé que les radios locales se faisaient du taux d'écoute sur le dos de la SSR. Moi, j'ai dit, monsieur Riva, c'est faux, vous vous trompez, c'est l'inverse. Il m'avait pris pour un malade, en gros, hein, mais bon. Et puis, j'ai dit, puisque c'est comme ça, on va lancer une agence à Berne entre les différentes radios, agence qui existe toujours, qui fonctionne bien. Et on a fait la démonstration, notamment avec cette agence, mais aussi avec le fonctionnement qu'on a mis en place, pour faire en sorte que la définition que donnait M. Riva soit fausse. Et on a fait la démonstration que les radios locales ne faisaient pas du taux d'écoute sur le dos de la SSR.
Alors ici, on est en direct depuis 10h ce matin de la Chaux-de-Fonds à côté de la Tour Espacité. On sera en direct de Neuchâtel cet après-midi pour ces émissions anniversaires. Et puis, on rencontre les auditrices, les auditeurs, ceux qu'on a derrière, de l'autre côté du poste, qu'on ne voit pas. Ça vous touche de voir ces gens qui se déplacent ici, qui viennent dire leur attachement à RTN?
Alors, je crois que ça a toujours été pour moi un credo de dire il faut qu'on fasse des radios de proximité. Ça me paraissait essentiel. On a été, autant RTN qu'RFJ, les premiers à dire il faut qu'on fasse de l'information, qu'on fasse de l'information régionale, qu'on soit complémentaire par rapport à la SSR. Et je pense que ce credo-là a été un gage de réussite. Parce que si on avait cherché à faire que de la radio musicale, comme ça s'est fait en France, où il y avait un public pour faire ce genre de choses, c'était possible. Mais imaginez de faire qu'une radio musicale sur Neuchâtel ou sur le Jura ou ailleurs en Suisse romande, c'était difficile, c'était pas imaginable, en tout cas disons dans notre esprit. Et c'est pour ça que dès le départ, on a cherché à travailler avec des journalistes.
Alors, est-il journaliste ? Il est chroniqueur tous les jours. Jean B partage ce point de vue sur le thème du jour, sur l'invité. Jean B qui avait obtenu une carte blanche. On écoute tout de suite Pierre Stelet ce qu'il a à vous dire.
40 ans de radio et plus. Plus de quoi, les gars ? Plus de salaire ? Ah ben volontiers, hein, vous pouvez augmenter mes honoraires, non ? Parce que soyons honnêtes, à la radio, quand t'es employé, t'as aucun avantage. Hein. Non, je veux dire, quand tu travailles à la Migros, t'as deux fois plus de points cumulus. Quand t'es hôtesse de l'air pour une compagnie aérienne, tu peux voler en business class pour pas un rond. Quand tu travailles pour une marque automobile, tu peux te la péter dans une voiture qui te coûte la moitié du prix normal. Mais quand tu bosses à RTN, ben t'as rien, hein. T'as même pas la carte Sésame gratuite. Tu peux pas jouer au concours et tu payes quand même ta redevance. Donc, je profite de la présence de Pierre Stelet sur le plateau. Bonjour Pierre, il faut intervenir. Je viens ici aujourd'hui avec des revendications. Alors, je demande pour tous les collaborateurs de RTN, je suis une sorte de porte-drapeau, donc une carte Sésame à vie, la redevance gratuite à vie et de pouvoir jouer au prêt citron comme bon nous semble. Et puisque je vous ai près de moi, Pierre, je vous propose, comme ça sonnamment, de faire un petit repas, vous et moi, en tête-à-tête, pour discuter d'une éventuelle promotion et d'une émission quotidienne avec moi, pour un salaire de star. Alors, je sais, vous allez me dire, « Ouais, mais Jean-Bernard, on n'a pas le budget pour un salaire de star. » Alors, évidemment, Pierre, moi, je viens avec un projet ficelé, hein, comme un rôti. Alors, je vous propose d'envirer Claire Chapatte, Steve et Juvet, de mettre leur salaire ensemble et de faire un salaire pour moi. Voilà, et pour compenser, eh ben, on ferait des rediffusions de vintage et de l'air de jeu. Personne ne remarquerait rien. Et on irait rechercher Fabio Payot, qu'on paierait en bouteille de rouge. Il fera du bénévolat, il doit toucher une bonne retraite, il n'a pas besoin d'argent. Allez, on s'appelle la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse. Hein. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, car c'est un peu aussi votre anniversaire, hein, les 40 ans de RTN. Et j'aimerais terminer cette chronique du jour avec une phrase d'un célèbre philosophe jurassien qui a dit une fois, je le cite, « Vive la radio, merci de l'aimer comme votre amant, de lui apporter des fleurs et de l'amour tous les jours. » Voilà, je vous embrasse, Pierre, sur la moustache. Vive vous et vive RTL.
Alors, Pierre Stelet, c'était la chronique de Jean B. Ce philosophe jurassien dont Jean B nous parlait, qui a dit « Vive la radio, merci de l'aimer comme votre amant, de lui apporter des fleurs et de l'amour tous les jours. » Eh bien, c'est vous qui avez envoyé ces mots à l'ensemble du personnel il y a quelques semaines. La radio, vous l'aimez au quotidien ?
Mais bien sûr, on ne peut pas vivre 40 ans de radio et plus, hein, parce que ça a commencé, en fait, avant, pour les initiateurs, ça a commencé avant. Donc, évidemment que pour moi, c'est une longue histoire. Et voilà, quoi, j'ai fait le métier d'instituteur, mais déjà à l'époque, j'étais intéressé à l'audiovisuel. J'ai pris le risque d'enseigner pendant 2 ans, puis après de me dire, je me lance dans l'audiovisuel. Je savais que c'était... Allez, passez-moi l'expression, un peu casse-gueule, mais je savais aussi que si je n'y arrivais pas, que je pouvais retourner dans l'enseignement, parce qu'à cette époque-là, il y avait un peu un manque d'enseignants, enfin, je crois que maintenant, c'est un peu pareil. Mais bref, voilà, donc j'ai pris un risque, et puis finalement, j'y suis resté, quoi. Donc, je ne suis jamais revenu en arrière. Et aujourd'hui, la radio, ça fait partie de ma vie. Quand les gens rentrent dans mon bureau, ils se disent, mais celui-là, il est un peu fou, parce qu'il y a quatre radios, voire cinq, qui marchent quasiment en même temps.
Bon, Fabio Payot, qui était avec nous la semaine dernière dans 40 ans, 40 voix, c'est un peu la même chose. Il nous a raconté, et on a eu des photos qui sont arrivées pour prouver ses dires sur la page Facebook de RTN. Il avait des radios dans toutes les pièces, y compris dans les toilettes.
Je l'ai entendu,
dans les toilettes.
C'est pareil chez moi, hein. Il y en a partout, hein. Sur la table de nuit, dans la salle de bain, dans le corridor, dans la cuisine, au salon, il y en a partout.
Alors la radio, un grand amour, mais vous avez quand même fait un peu de place dans votre vie pour un autre amour, votre épouse Marie-Louise, qui est juste ici à côté. Marie-Louise et vous, chaque année, vous recevez à votre domicile l'ensemble du personnel pour un apéritif de Noël. On y est chaque année. Et on a demandé à Marie-Louise, à votre épouse, si cette invitation, ça ne représentait pas beaucoup de stress.
Moi, au départ, je m'étais dit, mais où est-ce qu'on va mettre ce monde ? Je ne m'imaginais pas bien la chose. Et ce qui est fou aussi, le patron, une fois que les personnes sont parties, donc vers 4h30 au début, 4h30, 5h, eh ben c'est lui qui rangeait, c'est lui qui nettoyait, en fait.
Et des fois, je ne sais pas, 30, 40 dans cette cuisine, il fait une chaleur, on a tous très chaud, et il y a toujours cette cheminée avec le feu dedans.
Ah oui, alors lui, c'est un rite. Chaque fois qu'il a des invités, il fait du feu dans la cheminée. En fait, il adore ça. On allume des bougies. Ouais.
Créer une ambiance, en fait. Faire en sorte que les gens soient bien chez vous.
Ouais. Qu'ils se sentent bien.
Marie-Louise Telet, année après année, donc bien sûr que l'histoire continue de la radio, 40 ans maintenant. Est-ce qu'au moment où vous avez dit oui à Pierre, vous imaginiez épouser la radio en même temps ?
Non, alors pas du tout. Non. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'en 71, quand on a décidé de vivre ensemble, loin de la famille, qu'en fait, j'avais affaire à une locomotive hyper puissante. Donc, je me suis dit, accroche-toi. Et c'est là qu'on est parti vraiment d'aventure en aventure.
Il donne parfois quand même l'impression d'avoir toujours une longueur d'avance.
Mais c'est absolument ça. Et dans sa tête, il cogite tout le temps et il est toujours dans le... mais vraiment loin, dans le futur. J'ai beaucoup aimé cette vie trépidante, parfois agitée, mais hyper intéressante et passionnante pour moi. Donc pour moi, c'était des émotions tout le temps. Et j'ai adoré,
Et ça continue encore, ce n'est pas nécessairement fini.
Eh ouais, ça continue. Il a toujours des projets. Et puis moi, j'aime bien.
Alors Pierre Stelet, cette vie, ce sont des émotions aux yeux de votre épouse. Votre réaction après l'avoir écouté ?
Ben oui, effectivement, disons, on s'est toujours complété. Ça ne veut pas dire qu'on s'est jamais engueulé, hein, mais, mais on s'est toujours complété. Ça a toujours fonctionné dans la dynamique, ça a toujours fonctionné dans la connivence. Et puis ça, je pense que c'est ce qui fait la longévité d'un couple. Hein, je veux dire, c'est pas seulement la vie au lit qui fait la longévité d'un couple. Hein, c'est le fait de vivre dans une forme de connivence. On fait de la montagne ensemble. On a fait la Nordente. Hein, c'est 4608 mètres, 9 mètres, je ne sais plus exactement. J'aurais voulu aller à Dufour qui est à 4634 mètres, mais elle n'a pas voulu parce qu'il y avait un peu de var à pas faire. Je peux comprendre à l'âge qu'on a que faire de la varap, c'était pas idéal. Mais on fait les choses ensemble. Mais ça veut dire que professionnellement, on n'est pas du tout dans les mêmes secteurs. On a des secteurs complètement différents. Mais on arrive à se compléter. Puis ça, je pense que voilà, ça fait partie du bonheur d'une vie, quoi.
Votre épouse, elle parle de vous, Pierre, comme une locomotive hyper puissante. Vous tirez les wagons. Vous arrêtez parfois ? Il y a des gares où il y a des petites pauses ?
Mais rare, c'est rare. Hein. Je suis effectivement toujours en train de cogiter. Puis les idées me viennent la nuit. Parce que moi, je dors en deux phases. Je me réveille, je me couche vers les 10 heures. Je me réveille à 2 heures du matin. Et puis de 2 heures à 3 heures du matin, je cogite et je lis. Hein. Je n'ai pas le temps de lire à d'autres moments, mais je cogite et je lis à ces heures-là. Et puis, y a des idées comme ça qui jaillissent à un certain moment donné, que je note sur un petit bout de papier. Voilà. Hein, des fois, j'ai même de la peine à me relire parce que je les note en étant couché dans mon lit. Hein, je prends un livre comme support sur un petit bout de papier. Peut-être si vous avez déjà remarqué, dans ma poche, j'ai toujours des petits bouts de papier pour vite prendre des notes comme ça, pour ne pas oublier, pour pas que je me dise « Ah, mais t'as eu une bonne idée, puis tu la retrouves plus. » Non, voilà.
Il y a un gâteau d'anniversaire qui a été prévu. Je crois que les bougies sont sur le point d'être allumées, Pierre. Il va falloir montrer que non seulement vous êtes une locomotive pleine d'idées, mais que vous avez du souffle également. Un gâteau d'anniversaire qui est ouvert, on est en train de faire la place ici sur la table, qui est ouvert par la boulangerie Hébert à La Chaux-de-Fonds. Alors, les gens sont en train de se rapprocher à un gâteau qui est aux couleurs de RTN, un gâteau qui est rose.
Voilà, on va allumer quelques bougies. Ce magnifique gâteau aux couleurs de RTN, un beau rouge.
Alors, est-ce que j'ai pas compté. Il y a le compte de bougies.
Ouais. Ça peut nous rajeunir.
Ouais, on peut se rajeunir un petit peu. Alors, attendez. Voilà, il y a les briques qui arrivent. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui.
Il y a un petit peu de vent, mais on profite
à la chaude du
beau
fond,
soleil.
Donc c'est un peu compliqué
c'est
pour
plus
allumer.
Difficile de les allumer que de les éteindre.
Ouais, alors là vous allez avoir de l'aide pour éteindre les bougies. Allez, hop, on va y aller comme ça. Hop, hop, hop. Et puis il va être temps de souffler ces 40 bougies. Hop, ben voilà, c'est là.
Il y en a certaines qui s'éteignent.
Alors, juste, vous allez souffler, Pierre, les bougies dans quelques instants. Vous avez choisi aussi un petit peu de musique. Vous avez choisi le titre Perle à Pimpin de Barbara. Pourquoi ce titre-là ? Pourquoi ce choix-là ? Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson de Barbara ?
Alors, je voulais sortir de cette fête joyeuse, agréable, un petit peu pour, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Marquer une intention. J'ai cherché des chansons qui dénoncent la guerre et puis j'ai trouvé que celle de Barbara était importante parce que cette chanson, je la dédie à Navalny Issacharov.
Ben on va écouter Perlimpinpin, reprendre notre souffle pour souffler ses bougies et puis on se joint à ses vœux et on dédie cette chanson à Navalny, à Sakharov et puis à tous ceux qui sont emprisonnés pour leurs opinions. C'est Perlimpinpin de Barbara qui va nous emmener jusqu'aux infos de 13h sur RTN et puis là on va laisser Pierre souffler les bougies du gâteau. Voici Perlimpinpin, Barbara sur RTN.
Qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences.
40 ans d'émotion, 40 ans de souvenirs, 40 ans de radio, 40 ans, 40 voix.
Suite de notre série d'émissions anniversaires et avec notre invité en direct de La Chaux-de-Fonds à côté de la tour Espacité, Pierre Stulet, le patron de RTN, avec qui on va reparler de quelques bons, j'espère, souvenirs.
Et pour parler de l'homme derrière la fonction également, nous avons interrogé 4 personnes en amont de cette émission. Alors son épouse, qu'on a entendue juste avant les infos, et qui comparait son mari à une locomotive. On va désormais écouter le vice-président du conseil d'administration de RTN, Philippe Maclin. Philippe Maclin qui temporise légèrement ce profil de fonceur.
Fonceur, oui, mais je pense que la description est un petit peu trompeuse, parce que c'est quelqu'un de très réfléchi, de très préparé. Pour faire l'analogie avec ses nombreuses courses en montagne ou même dans les forêts du Jura, c'est quelqu'un qui se prépare. Il regarde la carte, il sait où il veut aller, de où il va partir, à quelle heure il va arriver, à quel endroit, comment il va rentrer à la maison. Quand il fait des courses en altitude, généralement, il part avec un guide. Donc, sous son côté fonceur, rapide, un peu pressé, c'est quand même quelqu'un de très réfléchi, de très préparé, de même, je dirais, un peu minutieux dans sa préparation. Donc c'est un fonceur très, très réfléchi.
Et dans la vie professionnelle, il y a des similitudes ?
Oui, alors manifestement, c'est exactement la même chose. Dans sa vie professionnelle, c'est quelqu'un qui ne se lance pas à la légère, qui consulte des gens. Et puis, quelquefois, il peut donner l'impression d'être un peu brutal et puis pressé. Parce que souvent, il cherche un petit bout d'information, puis il ne s'intéresse pas à ce qu'on lui raconte toute l'histoire, parce que toute l'histoire, il la connaît déjà, il a déjà entendu d'autres personnes, donc là-dessus, il est au fait, il est au point. Non, je crois que c'est quelqu'un de très réfléchi, aussi bien dans le cadre privé que professionnel.
C'est un ami solide, Philippe ?
Bien sûr, de très longue date, quoi. On s'apprécie, on travaille en bonne intelligence, ça fait extrêmement plaisir hein, de travailler avec... Des gens qui apportent quelque chose. Moi, j'ai toujours voulu des conseils d'administration où on a une diversité, où on a une représentation régionale, ça me paraît extrêmement important, puis où on a des gens de différents secteurs et qui ont des expériences professionnelles où ils peuvent nous apporter quelque chose. Et moi, je me souviens de Philippe Maclin, quand il y a eu la crise en 2008, au mois d'avril 2008, l'économie, les banques nous avaient dit pas de soucis pour 2008, vous verrez, vous aurez un PBI de plus de 4 ou 5%, je ne sais pas trop quoi. Et puis en finalité, au mois d'avril, Maclin m'avait dit fais gaffe, je ne suis pas si sûr que ça ira très bien en 2008. Parce que moi j'ai des indicateurs de par la Chine, enfin, différents endroits qui ne sont pas très favorables. Et effectivement, il avait raison. Et ça, moi, j'ai écouté. Je me suis dit, ouh, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, en amont, on s'est préparé à avoir une année 2008 difficile parce qu'on avait quelqu'un dans le conseil d'administration qui avait cette sensibilité, enfin, qui était à l'écoute de l'économie à l'échelle mondiale.
Alors, justement, Philippe Maclin parle de vous comme quelqu'un de réfléchi, j'aurais envie de dire presque des fois méthodique. Hein. C'est aussi ce qui permet d'être structuré et de limiter les risques.
Mais bien sûr, je veux dire, quand on est bien informé, quand on anticipe les problèmes auxquels on peut être confronté, c'est toujours plus facile de les résoudre. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne rencontre pas des difficultés, mais en général, quand on anticipe, ce n'est pas insurmontable. Quand on anticipe, ça permet de trouver une solution alternative, quoi.
Dans tous les cas, percevoir chez les autres les capacités, c'est ce qu'a relevé à votre propos notre troisième interlocuteur. Il s'agit de Jean-Claude Gabrel, un proche de longue date.
Si on parle de Pierre Steulet, c'est une de ses qualités, c'est de percevoir chez l'autre ses capacités, ses limites, en fait, comment il peut collaborer avec lui. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a de l'intuition. En fait, il a un grand cœur, mais il le cache un peu dans sa carcasse, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est un sensible timide, et comme beaucoup de sensibles timides, on se fabrique, quoi. On se fabrique, on se construit.
C'est un personnage.
Oui, c'est un personnage. Voilà, c'est des personnages, et on pense qu'il y en aura plus, mais moi, je crois qu'il y en aura toujours. C'est un personnage qui a su convaincre, parce que ça, je pense, c'est une profession de foi pour lui. De penser qu'on peut informer les gens d'une manière locale en étant de haute qualité.
C'est quelqu'un qui vit à 200 à l'heure.
Par la force des choses. Il y a des gens qui ont des idées et puis en fait ils font du surplace. Pierre Steulet, il a les idées et il les crée. Donc on court très vite, dans tous les sens. Par moment, on est marathonien, par moment, on est un coureur du 100 mètres. Et puis voilà, il a la capacité de cette adaptation.
Je ne sais pas si vous auriez voulu ajouter quelque chose.
Moi, je dirais, pour moi, c'est un peu l'idéal. Par rapport à son couple, moi, je veux dire, c'est un grand amour, c'est la même notion de la famille, et en même temps, c'est des amoureux, c'est des amis. Et évidemment, sans sa femme, comme moi sans la mienne à l'époque, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. Voilà, ça c'est sûr. Et ça doit être dit, parce qu'on oublie toujours les personnes sur qui on a pu compter et qui étaient importantes.
Alors Pierre Steulet, on a entendu Jean-Claude Gabrel. C'est juste ce qu'il dit, vous êtes un sensible timide.
Certainement, oui. Dans des apparences un peu rustres parfois. Je pense que Ça fait partie de ma nature dans la mesure où moi, je suis fils d'agriculteur, je suis l'aîné, donc j'ai travaillé à la ferme. Mon premier métier, quelque part, c'est agriculteur, hein, pour un chat. Puis dans les années 50, 60, 70, l'agriculture, c'était difficile. Ça, je ne veux pas dire que c'est facile aujourd'hui, ce n'est pas ça que je veux dire, mais c'était difficile parce qu'on avait peu de machines. Et c'était du travail lourd, quoi. Hein, moi, j'ai commencé de travailler à l'âge de 6 ans, parce que mon frère et ma sœur ont 8 et 10 ans de moins que moi. Donc, j'étais un peu ouvrier agricole. Mais j'ai aucun ressentiment vis-à-vis de mon père ou quoi que ce soit. On a toujours aussi là travaillé en bonne intelligence, en connivence. Et donc, ça n'a pas pesé. Sinon, je n'aurais jamais pu continuer de travailler comme ça, quoi.
Jean-Claude Rabe-Gavrel, il revient également sur le sujet du couple. Sans votre épouse, vous n'auriez pas pu réaliser tous les projets que vous avez menés. Il fait bien de rappeler que...
Ouais, ça me paraît indéniable. Je veux dire, elle, sans moi, elle n'aurait pas fait la moitié de ce qu'elle a fait. Puis moi, sans elle, je n'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait. Je crois qu'il faut être clair. Je l'ai dit tout au début, on a toujours été très complémentaires. On s'entraîne, on s'entretire. Voilà, quoi. Je veux dire, moi, je suis une locomotive, mais elle, ce n'est pas un train qui freine. Au contraire, quoi. C'est aussi une locomotive. Alors, elle a peut-être un peu moins de puissance que moi, mais je veux dire, c'est aussi une locomotive.
Alors, dernière invitée à intervenir dans cette émission, c'est l'une des anciennes membres du conseil d'administration. Pierre Stelet, si je vous dis Nathalie... Nathalie Rochat, qui avant de rejoindre le conseil d'administration a été engagée comme responsable des relations publiques. On va l'écouter tout de suite.
Pierre Stelet était visionnaire à ce moment-là. Il n'y avait pas d'autre radio qui avait ce poste. Et lui, il avait anticipé l'importance du partenariat dans l'arc jurassien de développer la partie relations publiques des radios.
Et puis peut-être sur un plan plus personnel, Pierre Stelet, c'est quelqu'un qui vous a encouragé à aller de l'avant.
Oui, effectivement. D'abord, il comprend très bien comment fonctionnent les gens. Pour ma part, c'était vraiment extrêmement enrichissant parce qu'on peut beaucoup parler, beaucoup réfléchir stratégiquement. Et au biais des discussions, on arrive vraiment à mettre en place une stratégie commune. Et il est toujours soutenant, il pousse vraiment la réflexion. Et c'était extrêmement stimulant de pouvoir travailler dans un contexte comme celui-là.
À l'occasion de cette émission des 40 ans de RTN, c'est l'opportunité de aussi évoquer peut-être quelques souvenirs. Vous, Nathalie Rochat, vous auriez un souvenir particulier avec Pierre Stelet ?
Je pense que j'ai toujours une image. C'était relativement au début que je travaillais dans les radios. On avait la séance de direction. Et Pierre, pendant la séance de direction, il avait son tournevis et puis il était en train de réparer un agra. Et pour moi, c'était tellement l'image. Pierre, il connaît tout des radios, de la technique, des émetteurs jusqu'à la stratégie politique, les émissions. Et c'est cette image, il met la main à la pâte aussi. Et cette personne qui connaît vraiment chaque recoin des radios.
Alors, Pierre Stelet, Nathalie Rochat vous a décrit, c'est vrai, vous connaissez tous les moindres recoins de la radio?
Comme je l'ai dit avant, quand on est né dans l'agriculture, si on ne sait pas se débrouiller, on est nul. Quoi. Donc il faut effectivement savoir tout faire. Puis j'ai du plaisir à faire les choses. Moi, il n'y a rien qui me rebute. J'aime le travail, je me sens à l'aise dans le travail. Et puis il n'y a pas de saut métier. Quoi. Alors il y a des métiers plus difficiles que d'autres, mais moi j'ai mis la main à la pâte dans toutes sortes de choses. Un simple exemple, avec mon père, j'ai transporté du long bois, il n'y avait pas de camion pour le charger, on le chargeait à la main. Je ne vous dis pas, quand il fallait charger, on n'était que deux, hein, pour charger des billes de 30-40 mètres de long sur un char un peu brinque-ballé, parce qu'à l'époque c'était très spécial. Très spécial, et puis c'était le transporteur, c'était les chevaux, hein, donc il faut bien s'imaginer ça. Donc oui, on apprend à se débrouiller, à trouver des solutions, puis ça, je pense que j'ai ça un peu dans les gènes, c'est trouver des solutions.
Alors, trouver des solutions pour payer le salaire de star de Jean B, vous en avez une de solution?
Oui, alors, d'abord, j'aimerais lui dire à Jean B que j'ai été l'initiateur de la convention collective de travail pour les journalistes et les animateurs. Et puis que dans l'entreprise, comment dire, application, on applique en fait à tout le personnel. Parce que dans le groupe, on a 25 corps de métier. Et les 25 corps de métier ont un dérivé de la convention collective de travail des animateurs et des journalistes. Donc de ce côté-là, je me sens quand même relativement à l'aise. Et puis je pense que j'ai toujours défendu à fond la possibilité de maintenir cette convention collective. Ça me fait... moi j'estime que c'est normal. Mes collègues suisses alémaniques m'en ont toujours voulu, parce qu'ils sont archi contre une convention collective pour les journalistes et les animateurs. Je leur ai tenu tête jusqu'au bout, et on a une convention collective maintenant qui est en place depuis, 2008, sauf erreur.
Alors, on va continuer cette émission dans quelques secondes après une pause publicitaire et profiter peut-être de déguster ce gâteau pendant qu'il reste encore, parce que tous les gens qui nous ont rejoints ici en direct de la Chaux-de-Fonds Espacité viennent se servir.
Pas de souci.
Et nous, pour l'instant, on ne l'a pas goûté, le gâteau qui a été offert par la boulangerie Hébert à la Chaux-de-Fonds. On se retrouve dans quelques instants après ces quelques messages.
40 ans d'émotion, 40 ans de souvenirs, 40 ans de radio. 40 ans, 40 voix.
Alors le temps file, Pierre Stelet, on est presque au terme de cette émission qu'on va conclure comme tous les jours avec nos trois questions traditionnelles.
À quoi ressemblera selon vous RTN dans 10 ans pour les 50 ans ?
C'est toujours difficile de se projeter aussi loin, hein. La société évolue tellement vite que je ne veux pas essayer d'être devin. Mais je pense que de jouer, comme je l'ai dit à un certain moment donné, sur la proximité, de rester proche des gens, pour moi, c'est un gage de longévité, pour ne pas dire de pérennité. Ça me paraît essentiel. On le voit dans le comportement aujourd'hui, quand on accueille les gens correctement, quand on parle avec les gens, ils sont satisfaits, ils sont contents, ils ont envie de cet échange. Et je pense que la radio doit garder ce phénomène d'échange avec la population en sortant, je parle des collaborateurs d'RTN, en particulier ceux de l'antenne, il faut qu'ils sortent encore davantage. Quoi.
Alors, si vous aviez carte blanche pour une émission aujourd'hui sur RTN, je ne dis pas ce que le patron proposerait, mais qu'est-ce que Pierre Stelet proposerait comme émission aujourd'hui, si vous aviez carte blanche ?
Aller tous les jours dans le terrain et créer une surprise avec des gens. Les prendre rien préparé et puis avoir cette capacité de les faire vivre un moment d'émotion.
RTN, du haut ou du bas ?
Mauvaise question.
Alors, mais bonne réponse.
Ben oui, je l'ai la bonne réponse. Ne faites pas de soucis parce que celle-là, je l'ai quand même préparée. Alors, j'aimerais juste vous rappeler que le premier tunnel équipé en FM pour les radios locales a été le tunnel de la vue des Alpes. Je me suis battu avec le canton de Neuchâtel pour qu'il nous aide à installer cet émetteur dans le tunnel de la vue des Alpes. Ça a coûté très cher à l'époque. C'était Pierre Hirschi, qui était conseiller d'État, qui était responsable du département en question, qui nous a même permis de payer, je crois, sur 2-3 ans, je ne me souviens plus très bien, donc on n'a pas dû débourser l'argent de manière immédiate. Et puis, à cette inauguration, il y avait Adolfo Guy, avec qui j'ai échangé, et je lui ai rappelé qu'il fallait qu'il fasse en sorte que les tunnels soient équipés. Et ensuite, les tunnels de la N5 sous Neuchâtel ont été équipés. Donc, une sacrée fierté d'avoir pu dire « moi, j'ai fait le lien entre le haut et le bas ».
Merci, on salue Pierre Hirschi s'il nous écoute, on salue Adolfo Guy aussi
s'il nous écoute.
Merci beaucoup.
Demain ça va être le jour J pour RTN, journée anniversaire avec notamment Steve qui va nous faire revivre l'année 1984 entre 11h et midi. Avant ça, bon, on va continuer à être sur le terrain, Pierre Stelet, puisqu'on va se retrouver cet après-midi à la rue de l'Hôpital à Neuchâtel dès 16h devant les tout premiers studios de RTN.
Si je peux encore prendre la parole 2 secondes, j'aimerais rappeler que dans ce métier de radioteur, hein, comme j'ai l'habitude de le dire, je prends toujours un exemple pour bien situer les choses. Il y a ce que j'appelle la roue du charron, hein, ou la roue romaine. La roue romaine, elle est faite de 6 éléments qui font le cercle. Et puis au milieu, il y a des rayons. Puis au centre, il y a le moyeu qui permet de faire en sorte qu'on puisse créer, disons, avec un essieu, quelque chose qui roule. Et pour moi, c'est l'image d'une entreprise. Une entreprise, elle a ces six éléments qui font marcher l'entreprise, les journalistes, les animateurs, les vendeurs, l'administration, etc. Puis après, il y a les rayons, c'est ceux qui font un petit peu les basses besognes, si j'ose dire. Puis après, il y a au milieu le moyeu, puis le moyeu, c'est la direction. Alors la direction, on n'en parle pas beaucoup, mais je peux vous dire qu'elle bosse, quoi.
Et puis elle nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va pouvoir retrouver cette émission sur notre site internet cet après-midi. L'émission 40 ans, 40 voix revient lundi. On va évoquer 40 ans de radio en Suisse romande avec notre ancien collègue David Berger qui sera des nôtres lundi. Et puis on
va
se quitter.
Ça me fait très plaisir de voir.
Le plaisir sera partagé, j'en suis sûre, comme le gâteau. Et puis on va se quitter en musique avec Édith Piaf, La Foule. C'est le deuxième titre que vous avez choisi, Pierre Solet.
Oui, c'est le deuxième titre que j'ai choisi parce qu'en fait, ça remonte, c'est très vieux. Je ne sais plus combien d'années de mariage on a. Mais c'est une chanson qu'on avait diffusée lors de notre mariage, donc qui va faire plaisir à mon épouse.
Qui est juste à côté. Pour elle, c'est Édith Piaf qui chante La Foule. Merci beaucoup.
Merci.
40 ans, 40 voix. Revivez 40 ans de radio et d'émotion sur rtn.ch.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras.